L'actualité dans les Alpes du Sud, vigilance dans les Hautes-Alpes, un nouvel épisode de pollution atmosphérique gagne le ciel.
La météo et les poussières du Sahara créent les conditions propices à un troisième épisode où la qualité de l'air sera fortement dégradée aujourd'hui dans le département.
Vend Forquera pour 400 000 euros.
À Châteauvillevieille, on ne sourit pas face à cette annonce légale publiée en début de semaine. Après avoir été mise en vente sur le Bon Coin en 2015, désormais, les propriétaires veulent s'en séparer lors d'une vente aux enchères. Mais cette fois, la commune ne se positionnera pas, car derrière l'annonce se cache un cadeau empoisonné. Le nouveau propriétaire n'aurait que les murs du Forquera et non l'usufruit, la faute à un bail commercial qui court jusqu'en 2029.
Les écologistes, rien que les écologistes, que les écologistes.
Ils se sont réunis tous autour de la même table hier, 6 partis et mouvements dont Europe Écologie Les Verts qui veulent faire un bloc commun pour les régionales. On peut être vert et gagner, c'est leur message. S'ils estiment que le Rassemblement National est la bête à abattre, l'union plus large à gauche n'est pas pour autant leur priorité.
Et puis dans ce journal, vous verrez que Ries veut faire redorer son patrimoine.
Chapelle Sainte-Maxime, baptistère ou colonne, le riche bâti historique de la commune va connaître un nouveau souffle pour faire un tour. Tourisme 4 saisons. Météo.
Avec pour ce jeudi, eh bien, une matinée largement ensoleillée sur nos deux départements et puis des nuages élevés qui viennent progressivement remplir le ciel. Côté température, les maxis cet après-midi sur nos deux départements de 12 à 16 degrés. Et ce nouvel appel à la vigilance dans les Alpes du Sud face à cet épisode de pollution atmosphérique.
C'est le troisième en l'espace d'un mois dans nos territoires. Il atteint aujourd'hui les Hautes-Alpes. Les conditions météorologiques restent toujours favorables à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère. À cela s'ajoutent les poussières du Sahara. La qualité de l'air devrait ce jeudi être mauvaise sur les Hautes-Alpes ainsi que sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Sur le reste de la région, cette qualité de l'air devrait être dégradée à localement mauvaise.
Énième épisode dans l'histoire de Forquera, Châteauvillevieille. Il est à nouveau mis en vente.
À nouveau, car il y a 6 ans déjà, une annonce sur un site de vente en ligne avait été déposée. Cette fois, c'est une annonce légale qui s'en faisait le relais en début de semaine. Forquera est en vente aux enchères pour une mise à prix de 400 000 euros. Elle aura lieu le 15 avril au tribunal judiciaire de Gap. Mais cette fois, la commune de Châteauvillevieille ne se positionnera pas, regrettant un cadeau empoisonné. Les explications d'Aurore Valory.
Ce monument construit au XIIIe siècle, fortifié par Vauban au XVIIe et inscrit au monument historique, ne manque pas depuis plusieurs années de susciter les passions. En 2015 déjà, le château médiéval avait été mis en vente sur le site Le Bon Coin pour 2,8 millions d'euros. À l'époque, l'association Kera Passion et la communauté de communes espéraient bien récupérer dans le domaine public ce bien de 3000 mètres carrés appartenant à des propriétaires privés. Une souscription publique avait même été lancée, mais Tours, donjons et pont-levis n'avaient pas trouvé preneur. Quelques mois plus tard, le fort n'était finalement plus à vendre. Un autre projet était alors envisagé par le propriétaire, la famille Marty. Rebondissement, le 1er mars dernier, c'est finalement par une annonce légale que le château est mis en vente. Mise à prix 400 000 euros, soit 6 fois moins qu'en 2015. Il y a 3 semaines, un courrier a été envoyé à la commune de Châteauvillevieille. Très vite, cette dernière, avec le parc naturel régional du Kera, l'association Les Amis de Forquera et le soutien du département ont souhaité faire valoir leur droit de préemption pour acquérir ce fort. Mais l'annonce légale cachait une bien mauvaise surprise, explique le maire Jean-Louis Poncé.
Quand on s'est renseigné sur les conditions de vente, derrière cette vente du foncier, il y a également l'existence d'un bail commercial qui court, lui, jusqu'en 2029. C'est un loyer dérisoire qu'il y a pour le futur propriétaire des murs, mais certainement avec un pas de porte conséquent à la fin de ce bail qui va aller jusqu'en 2029. L'acquéreur qui va prendre ce fort n'aura aucune possibilité d'exploiter pendant ces années et devra de surcroît donner le clos et le couvert aux locataires et avec de très importants travaux rendus nécessaires par l'état des lieux.
Et cette situation risque, selon le maire, de nuire très fortement aux finances de la commune, tout en, je cite, ne profitant qu'aux locataires. La commune sera en effet propriétaire des murs du fort, mais elle n'en aurait pas l'usufruit. Deuxième point de crispation, en 2029, la sortie de ce bail pourrait être négociée.
Il y a deux sociétés, en fait. Il y a une SARL qui est propriétaire du fort aujourd'hui, donc c'est le propriétaire en question.
Donc et, la famille Marty.
Et il y a une société qui est la société Kira Lili, qui est une autre société qui, elle, est locataire. Donc à combien se négociera en 2029, nul ne le sait aujourd'hui. Donc c'est bien trop important pour le petit budget communal de la commune de Châteauvilliers.
Dans ce dossier, c'est à regret que la commune ne va donc pas faire valoir son droit de préemption pour que ce fort revienne dans le giron public.
Merci Aurore, un dossier à retrouver sur alpe1.com.
Politique, il compte lancer sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une vague verte au régional de juin prochain.
Six partis et mouvements s'unissent aujourd'hui à la veille de ces échéances électorales. Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, Alliance Écologiste Indépendante, Cap 21, Génération Écologie et le mouvement progressiste. La première pierre a été posée officiellement hier devant la presse pour afficher une seule et unique volonté, construire un gouvernement régional écologiste. Nathalie Morin est la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en PACA.
Le premier projet politique, c'est un projet qui est déjà obsolète, qui propose un rassemblement qui irait défendre une idée de repli sur soi, de haine. C'est le projet du Rassemblement national dont nous ne voulons pas. Le second projet, c'est celui qui propose de continuer comme avant, souvent avec des paroles écologistes. C'est ce qu'on appelle l'écologie des petits pas qui en réalité n'aboutit à rien. Il amène à la finitude de la planète, il fait exploser les inégalités. Et enfin, il y a le projet des écologistes qui a pour vocation de répondre à la fois aux urgences du présent et aussi aux défis qui sont devant nous, qui prendra compte de tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre, de tous ceux et celles qui s'écologisent et qui entend les demandes et les requêtes de la Convention citoyenne pour le climat.
Le curseur est donc placé sur l'écologie et sous l'alliance, car l'Union n'a pas toujours fait légion en PACA, soulignait hier Sandra Regol, la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. C'est bien évidemment les fantômes des régionales de 2015 qui reviennent dans les esprits. France Gamer est la présidente d'honneur de Génération Écologie.
Nous sommes partis complètement éparpillés, les écologistes. ELV, je rappelle, est parti avec le Front de Gauche d'alors. Génération Écologie avec les socialistes, et seule l'Alliance écologiste est partie sous ses couverts. Catastrophe, et nous avons dû en plus nous retirer à l'issue du premier tour face à la menace du Rassemblement national. Donc cet accord et cette coordination nationale nous donne plus de cohérence. Nous rassembler, ce n'est pas tuer l'un ou l'autre, mais c'est au contraire. Exister ensemble pour mieux réaliser nos objectifs communs qui sont un gouvernement écologique. Car nous savons tous que le Rassemblement national est à notre porte. Et lutter contre cette bête, c'est aussi nous ouvrir à d'autres.
L'union large pour faire barrage au Rassemblement national, voilà là toute la question. Car malgré cette volonté affichée de rassembler sans apposer de logo, le bloc écologiste reste seul et balaye les espoirs d'un mariage plus large. La porte n'est fermée à personne, martèle Jean-Laurent Félizia, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, mais à une seule et unique condition, l'âme écologiste ne sera pas vendue aux besoins électoraux d'un candidat.
On a fermé la porte à personne, hein, d'abord parce que nous, les écologistes, on aime discuter, vous le savez bien. Hein, mais nos discussions continuent et ont toujours eu lieu avec le Parti socialiste, le Parti communiste, des partenaires qui ont vocation à travailler avec nous, ou en tout cas entendre notre projet d'écologie politique en région de PACA, sans que ça ne les offusque. Il est clair que notre pôle écolo qui s'est constitué est une priorité d'attelage et que nous ne vendrons pas notre projet politique aux seuls besoins de candidatures éligibles.
Des discussions seraient donc toujours en cours, pas de calendrier précisé par les partis. Une union se bâtit lentement, mais sûrement, explique-t-il. Une équation tout de même avec une inconnue, il faudra compter sur la présence dans les urnes d'Olivier Dubuquois. C'est peut-être là l'erreur d'Europe Écologie Les Verts. Celui qui avait été désigné chef de file du parti pour les régionales en octobre dernier avait ensuite été suspendu pour avoir voulu rassembler les forces de gauche. Il pourrait bien se lancer dans la campagne, comme en atteste sa présence dans les Hautes-Alpes ce week-end. Toujours dans le volet régional, notez également la présence de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et lancée dans cette campagne des régionales pour La République En Marche, rien ne dit pour autant qu'elle sera chef de file, car le parti a, pour rappel, tendu la main au président Renaud Muselier en vue d'une alliance dès le premier tour.
Clap de fin pour Génération Identitaire.
Le mouvement apparenté d'extrême droite a été dissous hier en Conseil des ministres. La procédure avait été lancée il y a quelques semaines par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, taxant Génération Identitaire de vecteur d'un discours de haine incitant à la discrimination, à la violence envers des individus en raison de l'origine, de la race ou de la religion. Le mouvement avait mené, pour rappel, une opération anti-migrants. C'était à la frontière de Montgenèvre en avril 2018. Trois de ses membres avaient été condamnés en première instance à Gap avant d'être relaxés lors de l'appel.
En début de journal, on parlait d'une partie du patrimoine Kérassin qui est en vente. Direction Riez maintenant, une commune qui voit par ses vieilles pierres l'opportunité de se créer un nouveau tourisme.
Et il faut mettre les moyens pour redonner un peu de luisant à son patrimoine. Chapelle Sainte-Maxime, baptistère ou colonne, le riche bâti historique de la commune va connaître un nouveau souffle à l'initiative de la municipalité qui veut se donner les moyens de ses ambitions dans la restauration. Christophe Bianchi, le maire de Riez, il détaille les projets.
On a le projet de la chapelle Saint-Maxime, qui est un montant de pas loin de 790 000 euros avec des grosses subventions. On a la partie patrimoine antique avec le baptistère. C'est un montant total de 900 000 euros et il nous restera sur l'année 2021 245 000 afin de finaliser la totalité de ce projet. On a eu le vitrail de Saint-Maxime qui s'est terminé pour un montant de 12 000 euros. On envisage des travaux au niveau de la porte Sanson. Le montant des travaux seront de 288 000 euros pour essayer d'avoir au moins 80% de subvention sur ce projet-là.
Si certains projets vont débuter ou se poursuivre cette année, la question des colonnes n'en est qu'à la phase d'étude, une phase d'étude qui atteint déjà les 8000 euros. Dans un second temps, la municipalité mettra en place toutes les demandes de subventions. Pour l'édile basalpin, l'objectif de ces initiatives de restauration est simple, favoriser un tourisme hors saison et plus axé sur la culture.
Ce sera plus un tourisme culturel qu'un tourisme de masse comme nous avons au mois de juillet et d'août. Donc ça nous permet de pérenniser un peu aussi nos emplois sur la commune. Pour 10 euros dépensés dans le patrimoine, on a des retours qui sont supérieurs aux 100 euros. Le but final, c'est d'avoir une continuité. On aurait visite du baptistère et la partie groupe épiscopal, les colonnes romaines, le musée. Ça nous permettrait d'avoir un circuit et puis après mettre en valeur un peu tout notre patrimoine qui est exceptionnel.
Des propos recueillis par Manon Mathieu pour le projet de muséographie en lien avec Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Le maire réalise actuellement des travaux d'enfouissement du réseau électrique et de téléphonie dans la rue Grande. Cette amélioration de l'entrée devrait être achevée cette année pour se poursuivre en 2022 et 2023 sur les revêtements et les accès.
Alpes un sport. Avec Sainte-Tulle, retenue comme ville Terre de Jeux 2024.
Label décerné dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, Terre de Jeux 2024 vise à associer tous les territoires à la fibre sportive dans cette grande fête qui nous attend dans 3 ans à Paris. Après Digne-les-Bains, Manosque, Céreste et Vologne, Sainte-Tulle est donc la 5e commune lauréate des Alpes d'Haute-Provence. Une désignation de prestige qui permettra éventuellement à Sainte-Tulle d'accueillir et d'héberger l'une des 206 délégations étrangères présentes sur le pays durant un mois. Avec ses 5 villes labellisées Terre de jeu, ses 592 associations sportives, ses plus de 10 000 bénévoles et ses 41 700 licenciés, le département se prépare à vivre un grand moment de sport et d'émotion, s'enthousiasme le député basalpin Christophe Castaner.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.